CQFD.
Je vous propose maintenant un focus sur les reins, ces indispensables éboueurs de notre organisme. Ils filtrent les déchets du sang à l'aide de millions de tubules, régulent la composition des liquides de l'organisme. Mais ces infatigables travailleurs sont parfois malmenés. Et ce matin, on va explorer deux cas de figure très particuliers pour lesquels des études en cours pourraient changer la donne, Cécile Guérin.
D'une part, nous allons parler de calculs, ces cailloux qui font mal, très très mal quand ils se forment dans les reins. Or, il n'existe pas un, mais de multiples calculs rénaux de toutes sortes. Des études récentes permettent d'en savoir un peu plus sur leur sort. Et d'autre part, nous irons explorer un cas où l'atteinte du rein peut être très grave chez les personnes paraplégiques. C'était historiquement une cause de décès chez les lésés médulaires. Et là encore, de nouvelles études offriront du nouveau.
Alors on va commencer peut-être par faire le tour du rein. Et pour ça, on a le plaisir de recevoir à cette table Olivier Bonny, professeur au service de néphrologie du CHUV de Lausanne. Bonjour.
Bonjour.
Alors le rein, c'est votre spécialité, Olivier Bonny. Vous le décririez comme un travailleur hautement spécialisé sur lequel le corps s'intoxiquerait ?
Effectivement, c'est un organe qui est indispensable au bon fonctionnement du corps pour éliminer les différents déchets qui sont produits tous les jours et aussi tout ce qu'on absorbe comme nourriture et dont le corps n'a pas besoin. Finalement, tous ces déchets-là vont se retrouver dans les urines.
On le connaît pas très très bien finalement, ce rein. Il est beaucoup plus complexe et comme une mini usine de filtration et d'épuration.
Alors oui, il y a deux espaces intéressants dans le rein. C'est d'une part des petits filtres qui vont filtrer le sang qu'on appelle des glomérules et d'autre part derrière toute une tubulure qui va permettre de réabsorber tous les éléments dont le corps a besoin et donc qui veut le garder à bord. Par contre, la filtration, elle filtre à peu près un quart du débit cardiaque, donc ce qui sort du cœur, du sang qui sort du cœur.
Ça fait combien de litres ?
Et au final, comme le sang est filtré plusieurs fois par jour, c'est à peu près 180 litres d'urine qui sont produites par jour au niveau du petit filtre glomérulaire. Et après, bien sûr, on ne va pas uriner 180 litres par jour. Donc, le reste est retenu, de même que le sel, que le calcium et les autres les éléments importants dont le corps a besoin et qu'il va garder. Et le reste va filer dans les urines, les 2 litres d'urine que l'on a par jour.
Alors, si on se penche sur le fameux calcul rénal, c'est qu'en fait, c'est relativement fréquent dans la population. Une personne sur 10 aura un épisode de calcul rénal dans sa vie.
Effectivement, ce sont les statistiques. À peu près une personne sur 10 va faire un calcul au cours de sa vie. Et parmi ces patients qui vont faire un calcul, un certain nombre vont être des multirécidivistes. Et à peu près 50% vont récidiver dans les 5 à 10 ans qui suivent un premier épisode. Donc, c'est un problème vraiment important et il y a vraiment besoin de s'en occuper dans la pratique quotidienne.
C'est plus d'hommes que de femmes ?
Alors, il y a un rapport de 2 à 1, donc 2 hommes pour une femme.
Ah, 2 fois plus d'hommes quand même.
Oui. Ouais.
Alors, vous parliez de multirécidivisme, ça ne va pas être très très agréable, parce qu'en fait, quand il survient, il semble, je n'ai jamais eu, heureusement pour moi pour l'instant, ça fait extrêmement mal, mais pourquoi ça fait mal ?
Alors, ce sont des douleurs parmi les plus épouvantables qui existent, semble-t-il. Moi, je n'en ai non plus jamais eu. C'est en fait lié à l'obstruction entre le rein et la vessie, dans l'urètre, dans ce canal-là, lorsqu'il y a un calcul qui se déplace depuis le rein où il est formé, il se détache et descend dans l'urètre, il va obstruer l'urètre, le rein est mis sous tension, l'urètre essaye de lutter pour faire descendre ce calcul, et c'est la conjonction de l'obstruction et de cette lutte pour faire descendre le calcul qui va générer les douleurs épouvantables qui partent depuis derrière et qui irradient vers l'avant et l'entrejambe.
D'accord. Alors ces calculs, vous les observez régulièrement au microscope, Olivier Bonny, mais ils sont faits de quoi ? Leur composition chimique, c'est quoi ?
Alors il y a plusieurs types de calculs, c'est pour ça qu'on les analyse, pour essayer de déterminer un peu de ce qui s'est passé pour la formation de ces calculs. Déjà, ces calculs, ils se forment dans le rein, mais ils mettent des semaines ou des mois à se former, c'est pas quelque chose qui se forme rapidement. Et puis ensuite, ils se détachent et descendent. Alors pendant ce temps de formation, on peut avoir des différents sels qui vont précipiter dans les urines.
Les sels minéraux,
voilà. Ça peut être du sodium, ça peut être du calcium, ça peut être de l'oxalate, qui est un déchet du corps. Et ces sels sont plus ou moins solubles, sont plus ou moins concentrés dans les urines, en fonction aussi de ce que vous buvez. Si la quantité de boisson n'est pas suffisante, les urines ne seront pas suffisamment diluées, et donc ces sels auront plus tendance à précipiter et à former des micro-cristaux qui se forment déjà dans l'urine elle-même et que l'on peut observer dans les urines au microscope. Et puis ensuite, ces microcristaux vont faire une agrégation et au fur et à mesure construire un calcul qui est fixé dans le rein et qui va se détacher.
Ça prend du temps, enfin.
Alors ça prend plusieurs semaines, plusieurs mois pour se former. Et ça, c'est un processus complètement silencieux. Vous pouvez en avoir maintenant qui se fait dans vos reins, vous ne le savez pas. Par contre, à partir du moment où il se détache et qu'il descend, c'est là qu'il y a la douleur et c'est là qu'il devient apparent.
Et ils ont quelle taille ?
Certaines fois, c'est des calculs de 2 mm, ou si ce sont ces microcristaux, on les voit juste au microscope. Par contre, ça peut être aussi des calculs qui remplissent complètement la cavité calicielle du rein. Et on appelle ça des calculs coralliformes, parce que ça leur donne une apparence de corail.
Alors justement, il y a une étude américaine qui est allée étudier de près ces cailloux du corps, ces pierres de rein. Ils ont vu effectivement que ça se formait comme un corail avec la superposition à la fois de couches organiques et de couches minérales. Le calcul, on ne devrait plus l'appeler comme ça, on devrait l'appeler un corail du rein alors en fait.
Alors nous, on l'appelle calcul coralliforme quand il remplit complètement le rein. Mais ce qui est nouveau dans cette étude à laquelle vous faites allusion, c'est le fait qu'il y ait maintenant une sorte de processus de dégradation et de refonte du calcul qui est un processus continu. On pensait que c'était juste une accumulation de couches comme sur un glacier avec des couches de neige en fonction de la quantité de neige qui superpose.
Une agrégation. Quoi,
une agrégation. Et en fait, on constate maintenant que c'est un processus dynamique avec d'une part une agrégation mais aussi une résorption de ce calcul et avec une accumulation ensuite de nouveaux substrats. Et au final, on a à peu près 70% contiennent du calcium oxalate et 15% du calcium phosphate et puis 10% d'acide urique. Et puis le reste, ce sont des espèces cristallines plus rares.
Mais alors du coup, si on voit qu'ils se reforment et que c'est dynamique, on peut les dissoudre à un moment précis de leur construction ?
Alors c'était le point aussi amené par cette étude, c'est que jusqu'à présent on pensait que les calculs d'oxalate de calcium, qui sont les plus fréquents dans la population, on n'arrivait pas à les dissoudre, à moins de les plonger dans de l'acide pH 1, donc très
ah,
acide.
Oui,
ça on peut les faire dissoudre, mais maintenant on a appris à travers cette étude qu'il y aurait peut-être un moyen d'action, lequel on ne sait pas encore, mais il y a peut-être un moyen d'action pour limiter, augmenter cette résorption naturelle et limiter l'agrégation.
Alors si aujourd'hui, on ne parvient pas encore à les dissoudre, on les élimine comment ? On les traite comment en fait ?
Alors, on distingue deux phases. Il y a la phase aiguë, quand le calcul descend, et ça, c'est le rôle de l'urologue. Si le calcul ne descend pas spontanément, parce qu'il y a quand même un certain nombre de gens qui arrivent à descendre leur calcul spontanément ou à les faire passer. Et là, on va peut donner des médicaments qui ouvrent l'urètre et qui vont aider le passage du calcul. Si le calcul ne descend pas, si les douleurs sont trop importantes ou bien s'il y a une infection ou d'autres conditions particulières, à ce moment-là, on doit aller chercher ces calculs. Et ça, c'est l'urologue qui peut remonter par les voies naturelles pour aller rechercher ce calcul en place. Ou alors, aussi le casser avec des ondes. On appelle ça une lithotripsie.
Des ultrasons.
C'est des sortes d'ultrasons très forts. Mm-hmm. C'était le camion avec un lithotripseur à bord qui se déplaçait dans toute la Suisse romande il y a quelques années et qui permettait de casser ces calculs sans devoir opérer.
Ouais,
parce qu'avant, c'était la seule chose que l'on pouvait faire, c'était d'ouvrir le rein pour aller chercher ces calculs. Maintenant, on a au moins la chance de ne plus avoir besoin de le faire.
Ah, il y a une deuxième étude américaine, Cécile, qui propose un autre traitement plutôt original. Hein.
Oui, elle a reçu d'ailleurs cette année un Ig Nobel, ces ignobles Nobel qui exhument en fait des recherches les plus insolites. Et là, alors vraiment c'est étonnant, des médecins américains ont cherché à voir l'effet positif des montagnes russes et autres manèges à sensations pour éliminer les calculs rénaux. Alors, vous pensez, Olivier Bonny, qu'on va pouvoir mettre les patients dans des grands manèges pour faire passer leurs calculs rénaux ? C'est sérieux ?
Alors, c'est l'avantage de ce Ig Nobel, comme ils les appellent, c'est que d'une part, d'abord, on rit en entendant ce type d'étude, mais après, la deuxième étape, c'est de réfléchir. Et effectivement, ces gens sont partis d'une constatation, c'est que certains de leurs patients, après avoir fréquenté les montagnes russes dans les parcs d'attractions américains, relataient qu'ils pulsaient spontanément des calculs. Et donc, ils sont partis de là et ils ont utilisé un moulage du rein et de l'urètre. Et ils ont mis à l'intérieur de ce moulage des calculs. Ils ont regardé comment ces calculs se déplaçaient lorsqu'ils fixaient ce moulage dans un sac à dos sur le chariot de ces montagnes russes. Et ils ont constaté qu'ils arrivaient à mobiliser ces calculs dans la plupart des cas dans ce moulage. Donc, on pourrait imaginer faire descendre des calculs ou aider à faire descendre des calculs chez des patients.
En faisant des manèges, mais est-ce que c'est un conseil qu'on peut donner ou...
Alors, je pense qu'un patient qui est en train d'expulser un calcul qui est tordu de douleur, je doute qu'il ait envie de monter dans un chariot d'une montagne russe, même à Disney World.
Mais est-ce que certains relatent que peut-être en faisant du sport, en ayant certaines positions?
Alors, certains patients décrivent qu'en descendant des escaliers, ils arrivent à faire descendre leur calcul.
Ils le sentent.
À le faire passer plus facilement. Ils sentent que la douleur progresse et que le calcul est expulsé plus facilement. Donc certains font cette manœuvre pour essayer de faire descendre des calculs plus facilement. Mais là, on est dans la phase vraiment aiguë lorsque le calcul descend. Après, il y a tout un traitement qui peut être mis en place aussi pour la prévention de l'apparition de nouveaux calculs dans le rein.
Alors vous, Olivier Bonny, ici à Lausanne, vous lancez une étude clinique pour tester justement un nouveau médicament. Expliquez-nous ce que c'est et à qui c'est ouvert et comment on peut participer.
Alors le médicament lui-même est connu depuis très longtemps parce que c'est un médicament qu'on donne très très couramment à des millions de gens dans le monde pour traiter l'hypertension artérielle. Or, ce médicament, qui est un diurétique, qui fait perdre un peu d'eau et de sel, il a un effet secondaire qui est que le rein retient du calcium. Donc, il y a moins de calcium dans les urines pour aller former des calculs. Et cette famille de médicaments qui s'appelle des thiazides ont été étudiés déjà dans la problématique des calculs pour la prévention de l'apparition de nouveaux calculs. Et il a été montré que c'était efficace, mais c'est de toutes petites études avec peu de patients. Et maintenant, on va pouvoir financer, grâce au Fonds National Suisse, qui finance des études pour des médicaments qui existent déjà, mais dans le cas d'une nouvelle indication, on va pouvoir financer une étude où on recrute des patients qui ont eu deux épisodes de calculs dans les 10 dernières années et qui ont au moins une analyse de leur calcul qui contient du calcium. Et à partir de là, ces gens-là peuvent nous contacter. On les mettrait dans quatre groupes différents. Un groupe avec une toute petite dose de ce traitement de thiazidique. Une dose à 12,5, une dose à 25 mg, une dose à 50 mg et un groupe placebo pour vérifier l'efficacité du traitement. Et on suit ces patients sur 3 ans avec un scanner au début, un scanner à la fin, pour voir si on a un effet sur le nombre de calculs et le nombre d'épisodes de coliques, donc de douleurs aiguës.
Tout le monde peut participer ?
Alors, tout le monde qui a eu ces deux épisodes de calcul en 10 ans et une analyse de ce calcul peuvent participer. Et ils peuvent nous contacter au CHUV, soit via le service de néphrologie ou alors, je peux donner le numéro de téléphone, au 079 556 59 43.
Redites-le une fois.
Ouais. Encore une fois, 079 556 59 43.
C'est enregistré.
Merci.
Et Cécile, dans ce dossier sur le rein, vous vouliez ouvrir un cas particulier, en fait, le cas particulier d'une population à risque qui sont les personnes qui souffrent de paraplégie.
Oui, historiquement, c'était vraiment une cause importante de mortalité et jusqu'aux années 50, une personne paraplégique sur deux souffrait d'insuffisance rénale. Au centre suisse de paraplégie de Notteville, j'ai rencontré le neuro-urologue Jürgen Panek qui explique finalement les complications dans le rein liées à la vessie, une vessie qui se contracte de façon incontrôlée. Ce sont les fameux spasmes.
Le risque le plus haut, ce sont les spasmes de la vessie, parce que les spasmes de la vessie causent des fuites urinaires, mais en addition, c'est possible d'avoir des problèmes avec les reins, parce qu'avec le spasme, l'urine est pressée vers les reins. Ça peut déranger les reins et c'est très très mauvais. Malheureusement, ce n'est pas possible pour des personnes sentir ces problèmes. Ce n'est pas possible de sentir un reflux au rein, par exemple.
Pour prévenir justement ces reflux vers le rein, il est important de limiter les spasmes de la vessie.
Vous devez contrôler la fonction du muscle de la vessie. Donc, si vous avez un muscle qui est très spastique, vous devez calmer la vessie. Si la vessie est calme, la vessie est assez grand, c'est assez élastique. Et si la vessie est élastique, il détend pendant le remplissage, il ne fait pas de spasme, il n'y a de reflux au rein. Donc, on doit calmer les nerfs ou calmer les muscles.
Mais Cécile, calmer la vessie, d'accord, mais comment on fait? Quels sont les traitements pour calmer?
Alors, on agit sur les muscles. Soit on peut injecter du Botox, ça c'est relativement récent depuis les années 90, ou des médicaments myorelaxants. C'est une option, mais ce n'est pas la panacée.
Tous les traitements, ils calment la vessie pendant le remplissage. C'est bon parce que c'est une protection pour le rein. Malheureusement, les muscles sont calmés pendant la vidange aussi. Donc la majorité de notre personne, il doit faire l'autosondage pour vider la vessie, 4 à 5 fois par jour.
Ce qui fait qu'on doit toujours y penser.
Vous avez des autres signes pour une vessie remplie. Donc peut-être vous avez des frissons ou des mal de tête ou quelques autres signes. Donc ce n'est pas seulement l'horloge que vous devez regarder. La majorité de notre personne, ils sont si la vessie est pleine.
L'autre piste, c'est d'agir sur les nerfs avec la neurostimulation.
On a utilisé l'électrostimulation aujourd'hui aussi. Il y a des neuromodulations, c'est une technique pour influencer les nerfs qui sont responsables pour la fonction vésicale. Mais toutes les techniques d'électrostimulation ou de neurostimulation ont besoin d'une connexion résiduelle avec le cerveau. Donc ça marche bien pour les personnes avec une lésion incomplète, mais pas du tout pour les personnes avec une lésion complète. On peut calmer la vessie avec une stimulation électrique, avec une neuromodulation, mais malheureusement, les techniques, elles marchent mieux pour les personnes avec une sclérose en plaques ou un diabète, mais avec une lésion des nerfs grave comme la paraplégie, c'est très très difficile d'avoir des succès avec cette technique. Donc la majorité des personnes n'utilisent pas l'électrostimulation aujourd'hui.
Et Cécile, est-ce qu'on imagine des nouvelles solutions pour le futur?
Oui, pour demain, c'est encore au stade d'études expérimentales, de recherche. L'idée, c'est déjà d'agir au plus tôt après une lésion médulaire. Jürgen Panek.
Il y a des études qui ont démontré qu'une stimulation très très vite après la lésion de la moelle épinière peut influencer la vessie neurogène. Ça veut dire que peut-être c'est possible de protéger votre vessie contre les influences mauvaises des nerfs après une lésion de la moelle épinière. On a seulement une étude avec 10 personnes, donc c'est pas beaucoup d'expériences.
Comment ça marche?
La technique qui est utilisée dans cette étude était une implantation des électrodes. Donc c'est quelque chose pas vraiment très invasif, mais assez invasif. Et naturellement, la majorité des personnes, directement après une lésion de la moelle épinière, ils détestent une autre opération. Donc à ce moment, nous sommes en train d'essayer avec un projet pour tous les centres paraplégique en Suisse, d'essayer si une stimulation avec des électrodes externes peut aider les personnes avec une lésion de la moelle épinière aussi. On est en train de commencer cette étude au fin de cette année ou la prochaine année.
Et donc cette étude à venir en Suisse testera chez les paralysés médulaires la stimulation du nerf tibial qui est situé près de la cheville et qui va agir jusqu'à la vessie.
Il y a une drôle connexion entre la vessie et le pied. Donc, si vous faites une stimulation des nerfs ici,
au niveau de la cheville,
oui, ouais. Et les nerfs sont connectés avec la vessie. Et si vous faites la stimulation ici, ça peut calmer la vessie. C'est démontré, il y a des études pour les personnes avec, par exemple, le diabète ou la sclérose en plaques, et nous espérons que c'est le même avec les personnes avec une lésion de la moelle épinière. Et si vous calmez les nerfs pendant la phase de spinal shock, ça veut dire pendant les premières 6 semaines, peut-être c'est possible de protéger les nerfs contre des influences mauvaises si la spasticité commence. Nous espérons que c'est la case, mais ce n'est pas sûr. Donc, on est en train de commencer une étude.
Merci donc à Jürgen Panek, neuro-urologue au Centre suisse de paraplégie de Notteville. Alors, Olivier Bonny, on revient vers vous. Est-ce que vraiment les patients paraplégiques, du fait donc des spasmes de la vessie, sont à risque pour les infections urinaires?
Alors, ils sont à risque pour les infections urinaires et pour l'insuffisance rénale sur le long terme, puisque la vessie a de la peine à se vider. Ils doivent faire des autosondages pour vider la vessie. Et donc, l'urine qui stagne dans la vessie peut reporter, disons, la pression jusque dans le rein et petit à petit léser le rein. Et puis, cette urine qui stagne va également favoriser, s'il y a une bactérie qui se trouve par là, une infection urinaire.
Est-ce qu'ils sont aussi plus à risque pour les calculs rénaux spécifiques ?
Alors aussi pour des calculs rénaux, puisque les infections vont modifier la chimie de l'urine, en particulier le pH urinaire, et ça va favoriser la précipitation de certains sels, qu'on appelle des sels de Struvit, et qui vont apparaître dans l'urine, qui peuvent former des calculs dans l'urine aussi, et bien sûr dans les reins, si l'infection remonte jusque dans les reins.
Donc la difficulté, c'est l'absence de sensation. Du coup, ils sont obligés de faire des contrôles beaucoup plus fréquents?
Alors, il y a des contrôles plus fréquents où on doit rechercher ces calculs. On va rechercher s'il y a un reflux jusque dans le rein. Et puis, on va essayer d'évaluer leur fonction rénale. Mais là aussi, c'est difficile parce que le marqueur que l'on utilise est un marqueur musculaire qui vient des muscles. Et donc, chez ces patients qui ont moins de muscles, on peut être faussement trompé ou faussement rassuré sur l'état de leur rein, puisqu'on on mesure ce marqueur et qui n'est pas tout à fait adéquat chez des gens qui sont paraplégiques.
Et d'une manière générale, là, pour terminer, pour protéger ce rein, pour pas qu'il soit en insuffisance rénale, on va dire, en problème de fonctionnement, est-ce qu'il y a des conseils, on imagine, au niveau alimentaire ?
Alors, il y a des conseils alimentaires. Alors, dans le cas de la paraplégie, il y a, disons, l'élément le plus important, c'est le fait d'avoir un flux à travers le rein et à travers la vessie, c'est-à-dire que l'urine ne stagne pas. La prévention des infections, c'est le point principal. Donc, c'est de boire beaucoup et d'uriner beaucoup. Et donc, de s'auto-sonder aussi plus fréquemment en utilisant des mesures d'hygiène et de stérilité qui soient les plus grandes possibles. Après, pour les calculs en général, il y a aussi des mesures à prendre, dans le fait qu'on va essayer de limiter la quantité de sel que les gens mangent, dans la quantité d'oxalate, qui est un déchet du corps, mais également qu'on retrouve dans certaines nourritures, où sont très riches dans certaines nourritures.
Lesquelles, par exemple ?
Alors, il y a typiquement les épinards, le chocolat noir, les racines rouges, les betteraves rouges. Ils sont des aliments très riches en oxalate. Et puis, il faut que les gens mangent aussi suffisamment de calcium. Ça peut paraître paradoxal, parce que
c'est le calcium
qu'on retrouve en grande partie dans les urines, dans les calculs, mais lorsqu'il n'y a pas assez de calcium dans l'alimentation, ça ne va justement pas permettre de lier l'oxalate qui se trouve dans le tube digestif. Cet oxalate, à ce moment-là, est absorbé, se retrouve dans les urines, où il y a toujours du calcium qui vient depuis l'os, etc., et va former des précipitats, des petits cristaux dans les urines. Et puis, le fait, c'est de boire beaucoup pour essayer de diluer les urines au maximum pour éviter que ces sels ne précipitent.
Boire de l'eau.
Boire de l'eau, bien sûr.
Bien sûr. Tout ça pour éviter d'avoir très, très, très mal. Merci beaucoup, Olivier Bonny. Je rappelle que vous êtes professeur au service de néphrologie du CHUV. Vous avez répondu à l'invitation de Cécile Guérin. Je vous souhaite une excellente journée.
Merci, à vous aussi.
CQFD sur la première.